Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour ou bien rebonjour. Ça va, vos vacances? Vous bronzez, vous nagez, vous bullez? Et une fois que c'est fait, que diriez-vous d'une petite expo ou d'un petit festival? Culture Média vous donne quelques idées ce matin. Il suffit de porter un masque. Nous serons au Mucem de Marseille, au Bassin de Lumière de Bordeaux, mais aussi au Festival Nombril du Monde de Pougny-Hérisson et aux Eaux de Thoiry, balades et suggestions culturelles tout à l'heure. Sous le ciné exactement ou comment revivre les grands films d'été, ce matin Julien Cotreau vous ramène en 1985, un film de Claude Miller qui lança une ado de 14 ans prénommée Charlotte, oui Charlotte Gainsbourg, et le film c'est évidemment L'Effronté. Aimeriez-vous connaître la première page du nouveau roman d'Emmanuel Carrère? C'est à la fin de l'émission, le livre s'appelle Yoga et sortira en septembre chez POL. Bonne matinée, bonnes vacances si ça se trouve. Cette deuxième heure commence avec le journal de la culture. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui.
Au sommaire, le retour de Miley Cyrus, Hollywood en pleine censure, un rétropédalage, un biopic pop, un étrange festival et une chanson de circonstance.
La chanteuse américaine Miley Cyrus tease son retour.
Oui, elle a posté sur son compte Twitter une vidéo d'elle en train de se déhancher sur ce qui sera probablement son nouveau single, Midnight Sky. Une vidéo de 31 secondes exactement, avec une partie instrumentale et une partie où on en entend Miley chanter. Alors on ne connaît pas encore la date de sortie de ce single, ni celle de son album d'ailleurs. Mais si Miley commence à tweeter, c'est que ça devrait pas tarder. En tout cas, la chanson, elle a l'air plutôt cool. Le son n'est pas très bon, je vous préviens, puisque ça vient directement de son compte Twitter. Mais je vous propose d'écouter un extrait quand même.
Bah dis donc, le son n'est pas très bon.
Ah mais c'est homemade. Je vous ai prévenu, mais ouais, c'est une exclue. Voilà, c'est avant tout le monde.
Ok, voilà. Ok. À Hollywood, Damien, un rapport fait grand bruit.
Et ce rapport, il est signé par PEN America, une association qui milite pour la liberté d'expression aux États-Unis. Selon elle, les studios hollywoodiens s'auto-censurent depuis de nombreuses années pour ne pas froisser les 1,4 milliard spectateurs chinois potentiels. Des scripts caviardés, des scènes supprimées. PEN America prend pour exemple le drapeau taïwanais qui a été enlevé du blouson de Tom Cruise dans la suite du film Top Gun, qui sortira en décembre prochain. Alors la raison, le département de propagande du Parti communiste chinois possède un des systèmes de censure parmi les plus durs au monde. C'est lui qui va décider si un film peut sortir ou non sur le territoire, et l'enjeu financier est évidemment énorme pour les studios, donc autant ne pas les froisser. Pour exemple, les longs-métrages Avengers ou Spider-Man ont fait plus de recettes en Chine qu'aux États-Unis.
Effectivement. La rue de Valois, ça veut dire le ministère de la Culture, revoit sa copie.
Oui, la rue de Valois, c'est mardi dernier que des événements culturels rassemblant plus de 5000 personnes allaient être autorisés dès le 15 août et que l'autorisation préfectorale qu'il faut demander pour l'organisation d'un concert, par exemple, ne serait plus nécessaire à compter du 1er septembre. Mais hier, Roselyne Bachelot a rétropédalé sur ce dernier point. Chaque événement culturel devra continuer à demander une autorisation administrative et cette autorisation, elle sera délivrée de manière exceptionnelle. La rue de Valois, le ministère de la Culture, est désormais prudent. Elle se garde bien de donner une date de révision de ses règles et préfère avancer à petits pas. C'est vrai que ça semblait un peu compliqué au vu de la situation sanitaire. Vous l'aviez fait remarquer.
D'ailleurs. Et donc, Roselyne Bachelot, elle habite rue de Valois.
Oui.
C'est ça. On continue
moment,
avec. Oui, en ce moment. On continue avec un projet au cinéma. C'est quoi cette histoire? Il paraît que quelqu'un veut danser avec vous.
C'était un projet qui était annoncé depuis quelques temps, mais cette fois, ça commence à se préciser très sérieusement. Les studios Sony Pictures viennent en effet de confirmer qu'ils allaient distribuer le film consacré à la vie à la fois rocambolesque et tragique de l'icône pop absolue Whitney Houston. Le scénario, il sera signé par un spécialiste du genre, Anthony McCarten. C'est lui qui avait écrit Bohemian Rhapsody, le film sur Queen. Et ce film s'intitulera I Wanna Dance With Somebody, comme le tube de Whitney Houston que l'on vient d'entendre. Il est prévu pour l'automne 2022 et je vous raconte même pas comme je suis impatient.
Ah oui.
Ah bah oui.
Et quand vous dites rocambolesque, vous voulez dire carambolesque sûrement.
Carambolesque peut-être.
À Paris, le Forum des Images va de nouveau accueillir un étrange festival.
L'étrange festival, c'est le rendez-vous des amateurs de cinéma bis, de cinéma gore, de cinéma futuriste, tout cinéma qu'on voit rarement en salle et c'est bien dommage. Alors au programme de cette 26e édition, le premier long métrage de Brandon Cronenberg, le fils de David Cronenberg.
Ah.
Spielberg. Une carte blanche donnée à la dessinatrice et réalisatrice Marjane Satrapi, un hommage à Pierre Molinier, un photographe surréaliste connu notamment pour ses autoportraits érotiques et sa passion pour le banylon. Également, le réalisateur Gaspard Noé viendra présenter son moyen-métrage avec Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle. Il s'appelle Lux Eterna, je ne suis pas très sûr de la prononciation.
C'est pas grave.
L'étrange festival se déroulera du 2 au 13 septembre prochain, ça se passera à Paris, mais n'hésitez pas à venir de toute la France si vous aimez ce genre de cinéma, c'est vraiment le rendez-vous incontournable.
On termine, Damien, avec une chanson totalement de circonstance.
Eh oui, Pascal, vous l'avez peut-être remarqué, il fait très 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 chaud. La température va grimper tout le week-end. Il fera 40 degrés à Limoges, 37 à Paris, 39 à Tours ou Bourges. J'ai l'impression d'être Laurent Cabrol, j'adore. Alors je vous ai trouvé la chanson idéale pour ces prochains jours. Elle est signée par un jeune artiste français. Il s'appelle Georges et son titre s'intitule « Cagnard ». Donc oui, c'est vraiment totalement de circonstance. On écoute un extrait.
Cagnard par Georges. Moi j'avais Richard tout à l'heure, coup de soleil, c'était un peu plus daté,
voilà,
mais bon, voilà.
Le
journal de la culture, merci beaucoup Damien Cabrespin, j'ai un petit cadeau pour vous.
C'est vrai ?
Ouais,
ah.
Du bonheur.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Le virus n'a pas eu la peau de la culture estivale en France, pas du tout. Partout dans le pays, on peut respirer à plein poumon l'air culturel, expo, festival, il suffit de vérifier les jauges et de porter un masque. Ce matin, Culture Média s'offre un petit tour de France culturelle. Quatre propositions pour votre été qui bat son plein. Nous serons à Marseille, à Pougnérisson, dans les Deux-Sèvres, aux Eaux-de-Thoiry, mais d'abord direction Bordeaux, son ancienne base sous-marine, les bassins de lumière, ou comment voir notamment l'étoile de Gustav Klimt projetée sur les murs de béton, ou réflexion sur l'eau, Klimt d'or et de lumière. Bonjour Augustin de Cointet.
Bonjour Pascal.
Vous êtes le directeur des bassins. Cette exposition, il faut le dire d'abord, j'imagine, est rendue possible par une performance technologique.
Oui, tout à fait, puisque nous sommes dans un gigantesque bunker qui fait au total 4 hectares. On utilise un gros tiers et on est dans du béton. Il y a de l'eau puisque c'est des grands bassins d'eau dans lesquels rentraient les sous-marins et puis où il y a des grandes voûtes de béton qui ont été construites par-dessus. Et à l'intérieur de cet endroit gigantesque et un peu sinistre au départ, il y a toute une installation technologique qui a été faite pour pouvoir projeter de l'image partout. C'est-à-dire que quand vous entrez, vous avez vraiment de l'image partout, c'est-à-dire tout autour de vous, sur tous les murs sans discontinuité, sur les sols au niveau des quais. Voilà. Et donc quand vous vous promenez là-dedans, il faut imaginer des dimensions gigantesques puisque il y a 4 bassins qui font chacun 100 mètres de long sur 20 mètres de large et 15 mètres de plafond. Et vous avez de l'image absolument partout. Et puis à vos pieds, comme vous êtes sur des passerelles, vous avez l'eau qui est dessous et qui reflète toute l'image qui est autour de vous.
Alors c'est peut-être un peu compliqué à décrire à la radio, mais là je crois qu'on a un bon aperçu. Le défi est visuel, mais il est aussi sonore.
Bien sûr, puisque on est dans un endroit de béton avec de l'eau, donc il fallait faire une installation sonore extrêmement précise pour avoir une qualité d'écoute très très belle et très précise. Et parce qu'il faut bien imaginer que les expositions qu'on présente à l'intérieur mélangent la musique et les images, et en fait il y a autant le son qui est au service de l'image que l'image qui est au service du son. C'est vraiment quelque chose de très complet et c'est pas juste des images qui sont mises en mouvement avec un peu de musique, mais c'est vraiment un travail de création pure dans lequel on associe des images, celles de Gustav Klimt ou de Paul Klee par exemple, qui sont retravaillées et au rythme d'une musique particulière.
Mmh. Alors on a la musique et en même temps, bon, c'est Beethoven, hein, symphonie numéro 9, deuxième mouvement, donc on va l'écouter et puis vous allez nous faire une petite projection d'imagination, hein, décrire un petit peu la déambulation. Ça marche, Augustin Cointet ?
Avec grand plaisir.
Allez, on y va. À vous de jouer.
Donc là, nous sommes au milieu des bassins. Vous êtes au-dessus de l'eau sur une passerelle. Et vous avez tout autour de vous une grande rupture visuelle qui se crée puisque vous entrez dans la sécession viennoise. Ce qu'a voulu le réalisateur, Gianfranco Iannuzzi, avec son équipe Renato Gatto et Maximiliano Sicardi, c'est nous montrer avec cette musique que la sécession viennoise apporte quelque chose, un nouveau courant esthétique, quelque chose de nouveau. Et en fait, on va profiter du gigantisme des murs des bassins de lumière pour projeter des frises qu'on voit nulle part ailleurs. Par exemple, la fameuse frise Beethoven, d'où le choix musical, où vous voyez tout autour de vous les grandes spirales dorées de Klimt, puis cette allégorie du mal qui est une espèce d'énorme gorille qui arrive derrière vous sur des proportions gigantesques de quasiment plus de 10 mètres de haut, puis le chevalier, le conquistador qui représente le bien, qui va lutter contre le mal, et tous les chœurs qui sont toutes ces femmes de Klimt un peu rousses qui chantent les unes à côté des autres, qui vont s'animer tout autour de vous. On n'est pas du tout dans le cadre d'un diaporama avec des images qui sont posées les unes à côté des autres, mais vraiment le tableau de Klimt sont sortis de leur cadre et déployés dans les 13 000 mètres carrés d'écran, et tout autour de vous, vous avez ce combat entre le bien et le mal au rythme des accords de Beethoven et au rythme des couleurs dorées et magnifiques de Klimt, et vous évoluez là-dedans. Il faut savoir que c'est un parcours dans lequel vous n'êtes pas assis, vous déambulez, vous marchez, vous avez 4000 mètres carrés, vous marchez, donc voilà, on est dans plein rêve.
Impeccable, Augustin de Cointet, franchement, alors là, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire pour moi.
Ah si, il faut venir.
Ah si, il faut venir, bien sûr, et même Beethoven vous remercie. Alors, on a parlé de Gustav Klimt, ça c'est le programme long, mais il y a un programme court avec l'artiste allemand Paul Klee. Que peut-on dire de Paul Klee? Comment donner envie aux gens de venir voir ses œuvres?
Alors Paul Klee, il a un regard un petit peu différent. Il a une peinture qui est très très musicale. C'est quelqu'un qu'on connaît finalement peu de noms, mais très bien dans les dessins, parce que c'est des dessins qui sont connus de beaucoup de nos enfants, parce que Klee avait une approche très spontanée de la peinture, et avec des grands personnages d'enfants, des têtes dans tous les sens, avec des airs un peu tout à fait particuliers, et puis une peinture parfois très géométrique avec des carrés, des choses qui s'approchent les unes à côté des autres. Et Klee a une peinture éminemment musicale. Donc en fait, tout le travail qu'on va faire ici, c'est de le mettre en scène, comme si on était dans un opéra, et on a les peintures de Klee qui viennent à droite, à gauche de vous, au rythme de... Alors pour le coup, c'est Mozart avec la flûte enchantée, et vous avez toutes ces toiles de Klee, tous ces personnages qui se répondent, vous avez les visages peints par Klee, c'est Papageno et Papagena qui se répondent d'un mur à l'autre, etc. Donc ça fait quelque chose de, là aussi, assez extraordinaire.
Comment se passe la fréquentation pour l'instant ?
Écoutez, on a beaucoup de monde qui vient. Alors tout ça est fait avec beaucoup de prudence pour qu'on respecte chacun les règles sanitaires.
Donc,
on demande aux gens de venir avec des masques. On peut prendre la température en arrivant. On a du gel qui est distribué dès qu'on a une porte à pousser ou un endroit particulier. Et puis surtout, on a veillé à avoir une jauge pour laisser 6 mètres carrés par visiteur présent. Donc voilà, on n'a pas surchargé la base sous-marine, bien au contraire. Bien sûr, il y a des points de vue dans lesquels les gens s'approchent un peu plus parce qu'ils ont une force particulière. Et là, on demande aux gens de faire attention à respecter la distanciation sociale, mais voilà, la visite se passe très bien et c'est fait avec beaucoup de mesures pour que l'émotion prenne le pas et que ce soit vraiment un moment de rêve, un moment où on décroche un petit peu, et la visite donc se fait par créneau horaire. Vous prenez votre billet par exemple sur internet.
Voilà, c'est le mieux de réserver. Hein.
Exactement. Ouais. Et puis après, vous restez autant de temps que vous voulez.
Ça coûte combien l'entrée, rapide?
L'entrée est à 13,50 le plein tarif. Et puis après, vous avez des tarifs dégressifs pour les familles, pour les jeunes, pour les plus âgés, etc.
Merci beaucoup. Si vous êtes du côté de Bordeaux, donc n'hésitez pas. Klimt au bassin de lumière jusqu'au 3 janvier à la base sous-marine de Bordeaux. Merci à vous, Augustin de Cointet.
Je vous en prie, merci Pascal.
Changement radical de décor culturel. Nous partons dans les Deux-Sèvres au festival Nombril du Monde. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Petit tour de France culturelle, quelques idées pour vos traités, suggestions supplémentaires. Connaissez-vous Pougne Hérisson? Moi non plus. Village des Deux-Sèvres, 370 habitants, sauf quand a lieu, comme cet été, le festival Nombril du Monde qui fête cette année ses 30 ans. Ce sera les 14 et 15 août. Nombril du Monde se tient tous les deux ans, uniquement les années paires. Bonjour Yannick Jelin.
Bonjour.
C'est vous qui dirigez Nombril du Monde, vous l'avez fondé ce festival. Un slogan, il faut le croire pour le voir. Vous jouez le décalage, mais comment ?
Oh, écoutez, déjà en disant que Pougny-Hérisson, cette petite bourgade, est en fait un des nombrils du monde, c'est déjà jouer le décalage. C'est-à-dire que toutes les histoires du monde sont parties de là au moment de ce qu'on appelle le Big Bang mythologique, c'est-à-dire affirmer que, en fait, sans nous, vous n'existeriez même pas, vous vous rendez compte ?
Ah oui, non, ça va chercher loin. Que va-t-il se passer pendant deux jours à Pougny-Hérisson, Yannick Jelin ?
Bah déjà, il y a une ambiance particulière quand on arrive dans ce village. Je crois que c'est assez bien de passer directement de Klimt, Klee à Pougny-Hérisson, c'est-à-dire au poète des bords de chemin. Nous, on est là pour célébrer finalement une créativité ordinaire, c'est-à-dire des gens qui sont dans des univers aujourd'hui vachement délaissés. C'est-à-dire que la ruralité, elle s'est effondrée. il y a quelques années avec la fin des paysans. Et aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on fait de ces espaces-là? Et il y a une possibilité de fabriquer des choses. On a des espaces extraordinaires. Donc là, il y aura des spectacles. Mais il y a aussi une manière d'accueillir les gens, c'est-à-dire en les laissant s'installer sur le territoire, justement, là, dans une période aussi difficile au niveau sanitaire, les faire s'installer sur un endroit très beau, puisqu'on est dans un endroit au pied d'un château, où il y a une espèce de des grands espaces, encore avec un peu de verdure. Il y a des spectacles, le lancer de cri de bœuf, par exemple, c'est un sport.
Ouais.
C'est un sport intéressant. On avait fait ici, sur le même lieu, le match de foot de Bounirisson contre le reste du monde, qui était sur un terrain en pente, et avec la ligne médiane qui était juste devant le but du reste du monde. On avait fait 2-2. On a fait des jeux comme ça pendant longtemps, des jeux qu'on espère innovants. Mmh. Voilà.
Comment avez-vous atterri à Pougne?
Hasard, un soir difficile, un soir de grande chaleur, on m'a emmené dans cet endroit-là où il y avait vraiment des pierres partout, ça tombait, des châteaux en ruine, des auberges effondrées. Et c'était presque comme un lieu d'entraînement des géants. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait eu ici des types qui étaient venus jouer aux boules. Il y a des chaos granitiques partout. On est dans le massif armoricain, la fin du massif armoricain, en fait, même si on est dans la Gâtine-Poitevine. Donc il y a des gros rochers de granit dans tous les sens. C'est assez surréaliste comme endroit. Et c'est un endroit de légende. Il y a toujours eu des légendes autour de... Il y a encore peu de temps, on venait célébrer Saint Pou, qui est un saint qui protège de la peur. Et Dieu sait si on a besoin de le célébrer ces temps-ci.
Effectivement, je ne savais pas que Saint Pou protégeait de la peur. Du coup, vous m'amenez au Covid. Il a fallu que le virus s'installe une année paire. C'est quand même pas de chance. Mais c'est vrai, c'est jouable à Pougne sous Covid.
Ben oui, vous vous rendez bien compte que là aussi, l'espace fait. On n'est pas dans un lieu clos. On a une jauge 500 personnes. C'est quand même excessivement peu. Il y a peut-être que dans les moments de restauration, de choses comme ça, mais je pense que les gens qui vont venir chez nous, d'abord, seront des gens précautionneux. C'est des gens qui sont habitués au lieu, souvent, puisque même si ça vient d'un peu partout, là, ils sont assez limités. Et non, c'est possible, bien sûr, c'est possible.
Parce que j'ai une idée assez arrosée de nombril du monde, mais peut-être que je me trompe, c'est-à-dire que les masques, s'ils sont portés, même si vous n'avez pas l'obligation, puisque c'est en extérieur, ils vont assez vite tomber, non ?
Comme dans les espaces de restauration, vous en avez vu beaucoup dans les restaurants, manger avec le masque ?
Non, ça c'est pas possible, effectivement.
Non, puis on a des jeux qui sont difficilement concevables aussi avec le masque. Mais bien sûr qu'on va faire le nécessaire, bien sûr que les gens qui viennent sont tellement contents déjà que ça existe, parce qu'on a failli tout annuler, bien sûr. On avait tout annulé au mois de mars. Et puis on s'est dit non, il faut résister à ça, il faut se dire, il se passe quelque chose, même si c'est peu, même si c'est... c'est pas festif pareil, bien sûr, mais qu'est-ce qui va être festif cet été, totalement ?
On essaye, hein, on va tenter la fête, mais d'une façon différente, effectivement. Merci beaucoup. C'est donc le week-end du 15 août à Pougnirisson dans les...
Et c'est tout le reste de l'été, puisque le jardin sonore, qui est assez unique, existe pendant tout l'été, et c'est un endroit justement qui ne croule pas, donc c'est-à-dire qu'on peut y venir tranquillement, y passer un temps absolument délicieux, en étant pas submergé par une foule.
Voilà, allez donc à Pougnirisson, si vous êtes dans le coin, c'est dans les Deux-Sèvres, nombril du monde et au-delà. Merci beaucoup Yannick Jolin. On va partir à Marseille, parce que Marseille finit toujours par manquer à un moment donné. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Il n'y a pas que l'OM à Marseille, il y a aussi le Mucem, magnifique musée où vous pouvez aussi ne pas entrer. Le point de vue depuis les passerelles extérieures est magnifique. Mais là, on entre actuellement au Mucem tout l'été et même jusqu'à début janvier, l'exposition L'Orient Sonore. Musique oubliée, musique vivante. Vous pouvez télécharger l'application et vous déambuler en musique. Bonjour Pierre Giner.
Bonjour Pascal.
Vous êtes le directeur artistique de cette exposition dont le commissaire est le Libanais Kamal Kassar. C'est d'abord un patrimoine que vous mettez en valeur à travers cette exposition ?
Oui, c'est le patrimoine d'une musique à la fois précieuse, riche et ancienne, en fait, qui est au travers de ses enregistrements depuis 1903, en fait.
Parce que cette musique traditionnelle arabe est menacée.
Ben, déjà, elle est oubliée, enfin, ou méconnue. C'est des choses qu'on n'écoute pas forcément, des 78 tours. Enfin, on en montre 60 parmi les 10 000 que collectionne cette fondation, la fondation Amar à Beyrouth. Et en même temps, effectivement, elle est menacée aujourd'hui ben, par les conflits, mais aussi par le monde contemporain, voilà, dans la façon dont les traditions orales disparaissent aujourd'hui. Mmh. Des traditions orales très précieuses.
Vous parliez d'une date, hein, c'est la première date d'enregistrement, c'est en 1903. On va écouter et vous allez nous en parler. Pierre Giner, qu'écoute-t-on et quel est le support? Comment ça a pu être conservé, 1903?
Ben, c'est un 78 tours, une chanson, je crois, qui s'appelle « Être câlin, c'est à la mode ». Pour ça, c'est toujours très actuel. Et c'est une chanson d'Ibrahim Al-Kabani et enregistrée par Gramophone Berliner en 1903. En fait, cette exposition, effectivement, elle est possible que parce que on s'est mis à enregistrer la musique. Voilà. Et la bizarrerie, c'est qu'en enregistrant la musique, à la fois on l'a diffusée, mais on l'a fait aussi disparaître dans l'accumulation et la succession des morceaux et des modes. Alors là, c'est à la mode d'être câlin, mais en fait, quand la mode passe, la musique disparaît. Et Kamal Kassar et ses amis de la Fondation, finalement, collectent et redécouvrent toutes ces musiques... oui, disparus, parce qu'on ne peut plus les lire. Ou... Alors du coup, ils collectionnent et des gramophones, des 78 tours, mais aussi des cylindres, enfin, c'est-à-dire toutes les formes d'enregistrement de la musique. Et cette exposition nous permet de les réécouter, comme l'application qu'on a sortie, qui s'appelle orientsonore.fr.
Tout ce matériel...
C'est une sorte de grand salon de musique. Ouais.
Oui, tout ce matériel, 78 tours, cylindres, etc., où sont-ils habituellement? Ils sont à Beyrouth?
Oui, ils sont à Beyrouth dans la fondation, mais qui est un peu à l'extérieur de Beyrouth et qui a été préservée.
Oui, c'était ma question.
Fadi a été blessé. Oui. Et en fait, effectivement, c'est, bon, la situation chaotique qui a lieu en ce moment à Beyrouth, à la fois politique et avec la catastrophe qui a eu lieu il y a deux jours, fait que finalement est une sorte de. Comment dire? D'événements absolument catastrophiques qui vient d'avoir eu lieu, mais cette musique est prise dans cette situation chaotique depuis toujours.
Vous évoquiez aussi des traditions musicales orales qui sont menacées. De quoi s'agit-il?
En fait, tout simplement de pratiques musicales, collectives ou privées ou publiques qui elles-mêmes sont prises dans les conflits ou dans la société moderne tout simplement et qui s'estompent ou disparaissent du fait des modes mais aussi du fait des conflits interreligieux qui les condamnent à s'estomper ou tout simplement du fait des pratiques elles-mêmes et de la disparition de leurs interprètes. Mmh. Voilà. Et c'est ce que... Parce que je parlais de Fadi Yannick Tur, qui est un cinéaste et un documentariste, et qui, parce que cette fondation, d'un côté, conserve des disques ou des musiques enregistrées, mais on enregistre aujourd'hui. Et Fadi, qui est un cinéaste et documentariste, va au plus proche des musiciens et dans des contrées à circuler, que ce soit en Égypte, en Irak, pour enregistrer des musiciens ou des événements musicaux qui soient publics, des soufis qui jouent des transes absolument magnifiques, on dirait une sorte de rap contemporain ou de techno très intense, ou des poètes en Algérie qui développent une poésie épique et dont il n'y a plus que 4 représentants.
Effectivement. L'Orient sonore, j'ai l'impression que cette exposition trouve un écho particulier en ce moment, et y compris à Marseille. Cette expo colle à la ville de Marseille, vous diriez?
Ben oui, parce que Marseille, c'est, je sais pas, c'est le début de l'Orient en France, en fait. Et c'est vrai que les gens qui la visitent disent, bah, vous connaissez la musique de mon arrière-grand-père. Comment ça se fait? Et puis, tout simplement, ou d'autres disent, mais c'est l'Aïd. Parce que c'est vrai que c'est une fête, en fait, cette exposition. Elle est à la fois très émotionnante, enfin, très intense, et puis, en même temps, on vient s'installer au milieu des installations réalisées par Fadi, et, sur des tapis, écouter au plus proche de la musique. À un moment, on est dans un salon, à un autre moment, on est dans une sorte de fête publique devant des grandes scènes. En fait, il y a une sorte de joie de la musique, et puis c'est un grand salon de musique où au milieu des disques, au milieu des événements sonores, il y a aussi ce collectionneur Kamel Kassar qui s'entretient avec Philippe Azoury, le journaliste, mm-hmm. de leur propre passion de la musique mm-hmm. et qui nous font partager.
On allait quand même pas se quitter sans écouter Oum Kalsoum. Merci beaucoup Pierre Giner. L'Orient sonore actuellement au Mucem de Marseille avec masque obligatoire, j'imagine.
Ben, masque obligatoire, et puis, mais on est très bien accueillis, franchement, par le Mucem. Il y a de la place, il y a de la place dans l'exposition et dans le musée. Il y a d'autres expositions, et vous y êtes bienvenus.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne. Dernière étape à suivre de notre mini tour de France, et je vous l'annonce sur Oum Kalsoum, donc c'est quand même la classe. Une expérience à Thoiry, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et l'on termine ce mini tour de France d'idées pour vos traités à Thoiry. Thoiry dans le département des Yvelines, près de Paris. Thoiry, son zoo évidemment. Quoi de neuf? Eh bien un dîner safari tous les vendredis d'été jusqu'au 11 septembre, comme ce soir par exemple. Bonjour Christelle Bonjour Christelle Bercheny.
Bonjour.
Vous dirigez le zoo de Thoiry, et autant le dire tout net, les mesures sanitaires liées au coronavirus ont contraint le zoo à pas mal d'annulations. Tout n'est plus possible.
Alors tout à fait, il y a eu des choses, on avait beaucoup d'événements qui étaient prévus cet été, hein, dont un concert pour la conservation avec Yannick Noah et Barry Moore au mois de juin, qui a dû s'annuler, une wild race qu'on fait tous les ans au mois de septembre et qu'on a repoussé aussi l'année prochaine, où les gens couraient au milieu des animaux. Mais comme tout ce qui est Covid nous a engagés à devoir adapter, à s'adapter, etc., on a aussi tout ce qui est fermé, tout ce qui est restauration à l'intérieur, donc on fait que de la vente à emporter pour cet été. Et donc effectivement, on s'est dit, il fallait qu'on réinvente un peu les choses et qu'on se dise comment on fait rêver nos clients cet été et comment on les fait voyager puisqu'ils pourront moins voyager que d'habitude. Et on a eu l'idée de ce dîner safari.
Alors ça consiste en quoi?
Alors le dîner safari, tout simplement, c'est faire voyager les gens au milieu de la réserve africaine et de partager un dîner sud-africain avec un maître barbecue sud-africain, Monsieur Kobu, qui fait une vraie cuisine sud-africaine au milieu des zèbres, des éléphants, des autruches et de toutes les gazelles.
Là, vous allez faire hurler les véganes. Hein.
Oui, très bien. Et que c'est au milieu des herbivores. Et il y a aussi évidemment, alors il n'y a pas forcément que pour les véganes, il y a aussi bien pour les carnivores et les végétariens, puisque nous avons du saumon qui est cuit plus de 4 heures au barbecue. Vous avez aussi des paniers de légumes. Donc il y en a pour tous les goûts. Et puis évidemment des effilochés de bœuf et ce genre de choses.
Ouais, je crois que les véganes ils vont même pas jusqu'au saumon. Hein. Mais bon, quel genre d'animaux? Parce que vous dites on safari, bon safari pacifique, hein, on est bien d'accord. Quel genre d'animaux? Donc on dîne en extérieur évidemment et on voit passer quoi? Qui?
Alors, on vous emmène directement avec le camion Brousse, hein, qui est un vrai camion qu'on peut trouver au milieu de la plaine africaine. On vous emmène au milieu de la réserve africaine et là, vous allez croiser aussi bien les gazelles que tout ce qui est gnou, tout ce qui est watussi, tout ce qui est éléphants, zèbres, autruches, qui seront autour de vous pendant toute la soirée.
Mmh. Mais ces animaux-là, les gnous, prenons, ils sont pas ennuyés par l'odeur de la cuisine?
Alors non, hein, on est sur une plaine qui fait 75 hectares. Donc il y a de l'air, hein, c'est un petit peu d'espace. Et donc, tout est mis en place pour être vraiment, nous, la partie humaine, j'ai envie de dire, est réservée sous une partie boisée, qui permet aussi d'assurer la sécurité des clients, hein, puis on a un cordon de sécurité. Et il y a plusieurs soigneurs qui sont avec nous, qui assurent la sécurité de tout le monde. Et les animaux restent quand même dans une grande plaine, et donc sont absolument pas gênés par nous. Et au contraire, ils sont très curieux. Et on a de temps en temps la visite des autruches. Donc, il y a des consignes de sécurité très claires, où il faut pas courir, il faut pas applaudir, pour de façon à ce que tout le monde soit en sécurité et que la soirée se passe bien. C'est aussi pour ça que les enfants de moins de 12 ans ne sont pas pour le moment admis. Mmh.
Quel est le tarif de ces dîners safari ?
C'est 115€ pour la soirée complète avec un accès au parc à partir de 15h. Donc vous pouvez vous balader à partir de 15h au parc et les premiers départs sont à partir de 19h au camion brousse et le retour est en général entre 22h30 et 23h.
Mmh. Vous annoncez peut-être pour la fin août, la visite à vos deux gorilles, Yeba et Ayo, qui va devenir possible. Comment vont-ils d'abord ?
Ils vont très bien, ils s'acclimatent depuis le 17 juin à leur nouvel environnement, à leur nouveau soigneur. On a vraiment pris le temps de façon à ce qu'ils soient bien dans leurs espaces, qu'ils soient bien habitués à leur soigneur aussi et qu'il n'y ait pas de stress au moment de l'ouverture aux clients. Là, aujourd'hui, on en a deux. Il y en a deux autres qui vont arriver aussi à fin août, qui sont plus habitués, qui viennent de grands zoos comme Peridaisa, à voir du public et qui sont plus vieux, il y en a un qui a 18 ans. Donc du coup, voilà, fin août, normalement, ils seront visibles dans leur bâtiment et dans leur espace naturel aussi, puisqu'on leur a créé deux belles îles que l'on est en train de terminer.
Et ils viennent d'où, Yeba et Ayo ?
Alors Yeba et Ayo, ils viennent de Burger, de tout ce qui est en Allemagne et en Hollande.
Ah oui, d'accord.
Zoo.
Un zoo. Oui, d'accord.
Non,
parce que
Burger, non pas l'avion. Non, non.
Ok, bah, en attendant les gorilles, dîner safari.
Et Gaïa Zoo.
Ouais, dîner safari, safari pacifique, chaque vendredi, donc ce soir, au zoo de Thoiry. Merci Christelle Bercheny d'avoir été en ligne avec nous.
Merci à vous.
Et bon Thoiry, bel été. À suivre, souvenez-vous du film L'Effronté, oui, avec Charlotte Gainsbourg, Julien Cottreau vous raconte ce film de 85. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Sous le ciné, exactement, Culture Média vous fait revivre des films d'été qui ont marqué. Ce matin, 1985, L'Effronté, film de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg, Forever, entouré de Bernadette Lafont et de Jean-Claude Brialy. L'Effronté vous est raconté par Julien Cottreau.
C'est la fin de l'année scolaire dans le collège de cette petite ville de Savoie où le soleil frappe ses rayons sur la piscine découverte. Voici le tout dernier cours de sport où les élèves doivent sauter un à un du haut de cette immense plongeoire. Mais Charlotte, 13 ans, n'y parvient pas. Devant tous ses camarades avec qui elle n'a jamais vraiment sympathisé, elle est tétanisée à l'idée de se lancer dans le grand bain et peut-être même de sauter dans le monde des adultes.
Charlotte, te dégonfle pas.
Écoutez, chevalier. Bon, là, c'est rigolé. Tu plonges ou je viens chercher.
Charlotte Castan vit près du lac Léman avec son père, trop occupé à faire tourner son atelier de fabrication de pièces mécaniques, son frère aîné qui s'apprête à partir en voyage et Léone, la femme qui l'a élevée depuis la mort de sa mère. Timide et rêveuse, pour se confier, Charlotte n'a que Lulu, la petite voisine pot de colle. Absolument rien ne l'enchante à passer l'été dans cet environnement-là.
Tout est moche ici, tout est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Et puis arrive Clara Baumann, cette jeune pianiste prodige qui s'apprête à donner un concert dans la région. Charlotte est fascinée par son aura, sa prestance. Elle se retrouve même par hasard à pénétrer dans l'univers opulent et luxuriant de sa somptueuse villa située non loin d'ici.
Je sais bien que c'est pas possible, mais ce que je voudrais c'est rester là toute ma vie.
Tu sais, il y a des endroits mieux qu'ici. Si tu connaissais Côme ou Baden, oh, comme je te dis pas, c'est sublime.
Non, je parle pas de l'endroit, c'est l'ambiance. C'est tellement calme ici.
Mais alors que Charlotte pense à une amitié naissante, elle va tomber en déception devant la confrontation des illusions et la réalité des choses.
Demain au concert, tu imagines qu'un miracle va arriver, que ta Clara, elle va te dire « Mais bien sûr, ma petite Charlotte, mais bien sûr que je t'amène avec moi. Mais tu sais bien que c'est pas possible, tout le monde se moque de toi. Et toi, tu veux, et tu pries même le bon Dieu pour ça. »
Mais je prie pas le bon Dieu, ça me ferait mal. De toute façon, je suis pas croyante.
L'effronté de Claude Miller, dont l'héroïne n'est autre que Charlotte Gainsbourg, qui fêtait ses 14 ans durant le tournage du film en juillet 1985, a marqué toute une génération. Jean-Claude Brialy, qui incarne l'impresario de la petite pianiste, confiait sur Europe 1 au moment de la sortie du film avoir été subjugué par le professionnalisme de la jeune fille.
Nous tournions une scène d'émotion, elle mangeait son 4 heures, c'était une banane. Claude Miller lui a parlé à l'oreille, lui parlait longuement. Et puis il a dit moteur, elle a posé sa banane. Et puis elle m'a regardé et elle m'a dit deux répliques. Les larmes dans ses yeux sont arrivées. J'étais complètement bouleversé et désemparé parce que c'est la première fois qu'on me faisait ce coup-là. J'ai balbutié un peu et puis coupé. Claude a dit c'est très bien. Elle a repris sa banane. Et elle a continué sa vie.
En salle, le 11 décembre 1985, le film reçoit le prix Louis de Luc, considéré comme le Goncourt du cinéma, et comptabilisera plus de 2 700 000 entrées, avant d'être nommé dans 8 catégories au César de l'année suivante. Bernadette Lafont, qui joue Léone, remporte son premier César, celui de la meilleure actrice dans un second rôle, et Charlotte Gainsbourg, celui du meilleur jeune espoir féminin. Et il y a quelques jours, j'ai demandé à Charlotte Gainsbourg les souvenirs qu'elle garde de cet événement.
J'étais tétanisée à l'idée de monter sur scène et j'étais tellement émue. Mon père m'avait dit « Surtout, si tu l'as pas, tu pleures pas. » Il avait loué une limousine pour l'occasion et j'étais gênée qu'il en fasse autant. Mais aujourd'hui, je suis tellement touchée parce que ça avait beaucoup de charme et c'était comme ça qu'il témoignait de l'amour en fait.
Et alors que le film va fêter ses 35 ans, d'ores et déjà disponible en DVD Blu-ray, Charlotte Gainsbourg, pourquoi ce film peut-il encore plaire à un jeune ou une jeune ado de 2020 ?
Je réalise que c'est un film qui parle encore aux jeunes... Que ça concerne en fait. Des adolescentes de 13-14 ans peuvent se retrouver, peuvent retrouver la colère, la maladresse, le mal-être. C'est vraiment propre à l'enfance et à la fin de l'enfance en fait. Je crois que c'est pour ça que ça peut plaire encore.
Julien Cottreau vous racontait à nouveau L'effronté sur une réalisation de Valentine Jeulin. Quel film d'été la semaine prochaine ? Les paris sont ouverts.
Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut !
Emmanuel Carrière sort un nouveau roman le 10 septembre chez POL. Son titre Yoga. La preuve, en voici la première page. L'arrivée. Puisqu'il faut commencer quelque part le récit de ces 4 années au cours desquelles j'ai essayé d'écrire un petit livre souriant et subtil sur le yoga, affronter des choses aussi peu souriantes et subtiles que le terrorisme djihadiste et la crise des réfugiés, plongé dans une dépression mélancolique telle que j'ai dû être interné 4 mois à l'hôpital Sainte-Anne, enfin perdu mon éditeur qui pour la première fois depuis 35 ans ne lira pas un livre que j'ai écrit. Puisqu'il faut donc commencer quelque part, je choisis ce matin de janvier 2015, où en bouclant mon sac, je me suis demandé s'il valait mieux emporter mon téléphone, dont j'aurais de toute façon à me défaire là où j'allais, ou le laisser à la maison. J'ai choisi l'option radicale, et à peine sorti de notre immeuble, trouvé excitant d'être passé au-dessous des radars. C'était un petit pas de côté, encore, de prendre le train à la gare de Bercy, on s'arrête au milieu de la première page. Yoga d'Emmanuel Carrère, évidemment. Il y a un « i » qui s'est perdu, on ne sait pas pourquoi. Nouveau roman d'Emmanuel Carrère le 10 septembre prochain chez POL. Culture Média d'été, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous lundi, 9h en direct. Nous serons notamment avec Alain Baraton, le jardinier du château de Versailles. Et d'ailleurs, à suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Passez un bon week-end, si ça veut dire encore quelque chose en vacances. Et puis, je ne vous embrasse pas. À lundi.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.